Carcassonne. Nous y voici, entre Pyrénées bleues et montagnes noires. Ici, l'espace semblait fait pour que les vents se déchaînent et ne s'en privent guère. C'est une solitude têtue, rythmée par des formes abruptes, taillées pour le choc ou la morsure. Il en émane une énergie primaire, une puissance tellurique, conçue pour écarteler la chair et l'esprit. Sur son éperon rocheux, la cité de Carcassonne ressemble à un point fermé. Avant de les voir, on devine les maisons basses, comme attroupées, épaule contre épaule, derrière leurs colosses de pierre. Tours coiffées, murailles fauves, courtines de 3 mètres d'épaisseur, créneaux et machicoulis, herses et ponts-levis. Tout l'arsenal héroïque du Moyen-Âge se tient au garde-à-vous, sous un ciel d'enluminure. En fait, tombée en déshérence et menaçant ruine, la ville-forteresse a été civilisée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Les amateurs de patine lui reprochèrent sa chirurgie un peu trop esthétique avant de l'absoudre et maintenant de le bénir. Inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1997, la cité se flatte d'être le 2e site le plus visité de France. La restauration appartient désormais à l'histoire des lieux, qu'elle tire certes vers le romanesque, mais sans sombrer dans la disneyserie. Il n'empêche que l'on s'y sent volontiers l'âme d'un enfant bercé par les récits de chevalerie. Sur le chemin de ronde, dans l'herbe des lys, entre les deux enceintes, on rejouerait bien la flèche et le flambeau ou le miracle des loups. Mais comment s'y prendre quand la Rome de l'hérésie et sa bimbloterie médiévale sont prises d'assaut chaque année par des millions de curieux? En évitant la haute saison et ses heures de pointe pour visiter le fameux château comtal ou la basilique Saint-Nazaire, en appliquant par ailleurs la ruse vénitienne qui consiste à contourner les places où se coagule le flux touristique pour se perdre dans les Vonelles, y remonter le temps en compagnie de chats énigmatiques.